Je vous renouvelle à nouveau mes salutations et l'assistance de mes prières cet après-midi. Nous allons en quelques minutes, des minutes qui valent de l'heure, plus c'est rare et plus c'est précieux, nous remettre entre les mains de Dieu. Je voudrais qu'ensemble, on puisse ouvrir notre cœur à cette fraîcheur d'en haut, à ces eaux, parce qu'il y a de l'eau dans le ciel, dit la Bible, mais il y a pour moi surtout cette eau qui s'appelle l'amour d'un Père, l'amour de Dieu. On va se lever pour prier le Seigneur quelques instants, afin que cette eau chasse les boues et les impuretés, les inquiétudes, les fatigues de la vie. Non pas que la vie soit fatigante, mais la vie nous apporte des tristesses. Nous allons prier le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, je répandrai sur vous une eau pure. Et nous avons besoin de cette eau sur nos âmes, besoin de cette eau dans nos pensées, dans nos sentiments, afin que le bonheur et la fraîcheur de vivre nous soient donnés. Nous sommes dans un grand combat sur la terre, mais nous ne sommes jamais seuls. Il y a toujours avec nous une parole dans chaque difficulté, une présence dans chaque solitude, une main tendue dans chaque chute. Seigneur, parle, relève-nous, garde-nous, au nom de Jésus. Amen. Et nous prions en particulier cet après-midi pour les malades qui seraient présents au milieu de nous, ou pour nos familles malades. Nous te prions de les rétablir, de les encourager par l'amour du Christ. Amen. Je vous invite à vous asseoir, chers amis. Et avec moi, nous allons lire le prophète Jérémie. C'est l'Ancien Testament. Oui, l'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Le Nouveau Testament, c'est la parole de Dieu. Livre de Jérémie, chapitre 18. Vous m'entendez bien, tous ? Ça va ? Jérémie 18. Car j'aimerais vous parler sur ce thème, j'ai cherché et j'ai trouvé. Je ne suis pas scientifique, hein. Ce n'est pas dans ce domaine-là. J'ai cherché et j'ai trouvé. Alors, on va commencer avec cette histoire et puis on va y revenir surtout à la fin, en quelques minutes. Commençons avec Jérémie 18, l'histoire du potier, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, « Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier et voici, il travaillait sur un tour qui sert à tourner l'argile, vous savez. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Je voudrais dire, « Ainsi vous êtes dans ma main, mesdames et messieurs, amis, frères et sœurs, vous êtes dans la main de Dieu. » Sachez-le. Amen. J'ai cherché et j'ai trouvé Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai vraiment cherché. À force de recherche, enfin, j'ai réussi. J'ai trouvé parce qu'il s'est montré à moi. Il s'est révélé. L'être humain ne peut pas trouver sans l'aide de Dieu. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut, et nous, nous sommes au ras des pâquerettes sur la terre. Il faut que Dieu se montre pour le trouver. Et Dieu se montre. Dites donc, mes amis, quel serait ce Dieu qui se cacherait, qui ne se montrerait jamais? En somme, un Dieu sourd, aveugle, muet, incapable, indifférent, qui ne se laisserait jamais trouver. Là, on est sûr de ne jamais le trouver. Ce Dieu-là ne peut pas exister. Car s'il nous a créés, c'est pour nous dire quelque chose. C'est pour nous communiquer quelque chose. Un Dieu qui ne se montrerait jamais, c'est un Dieu qui serait inférieur aux êtres humains, qui, eux, communiquent. C'est un Dieu qui serait inférieur aux bêtes, qui sont capables de parades d'amour et qui sont capables de communiquer merveilleusement entre elles. Quand mon chat arrive dans la cour, les oiseaux commencent à piailler dans tous les sens. Ils se communiquent d'arbre en arbre en disant « Attention, le chat est là. Garez-vous. » Ils se communiquent. Et Dieu, lui, ne se communiquerait pas, resterait enfermé chez lui. Dieu se révèle comme le soleil. Et face au soleil, je ne peux pas dire le soleil n'existe pas. Face à ce que Dieu me montre, je ne peux pas dire Dieu n'existe pas. Oui, j'ai comparé Dieu au soleil, mais Dieu n'est pas aveuglant comme le soleil. Dieu n'est pas éblouissant comme le soleil. Dieu est plutôt comme l'air. L'air qui nous porte, qui nous entoure, qui nous anime. L'air qui nous fait vivre, l'air qui nous pousse, l'air dans les voiles du bateau qui pousse le bateau. Regardez les oiseaux, ils jouent dans le ciel, ils jouent dans l'espace, dans l'air. Ils ne connaissent pas l'air, ils sont incapables de nous dire si l'air existe, mais ils jouent dans l'air, ils sont portés, ils sont capables de pirouettes extraordinaires et un petit coup d'aile et ils virent, et ils descendent, et ils montent. Si vous enlevez l'air, l'oiseau se débat et tombe. Si nous enlevons Dieu de la vie, nous nous débattons et nous tombons. Dieu nous porte comme l'air. Il est partout autour de nous. C'est Saint Paul qui dit que Dieu nous soutient par sa parole. Ce qui veut dire que Dieu est partout, dans chaque cellule, dans chaque organe, dans la tête, dans le cœur, partout. Alors des gens disent « Dieu n'existe pas, je ne l'ai pas trouvé ». C'est un petit poisson qui disait ça un jour dans une histoire d'enfant. Un petit poisson qui disait à sa mère « Maman, je ne crois pas dans l'eau, ça n'existe pas ». Grand bêta, lui dit la mère, « Regarde, l'eau est partout ». Autour de toi, elle te porte, elle te fait vivre. Dieu est partout autour de nous. Nous sommes immergés dans la présence de Dieu. Mais aujourd'hui, nous croyons moins en Dieu parce que nous avons une mauvaise compréhension de Dieu. Nous en sommes restés à l'école maternelle du catéchisme. Nous en sommes restés à parler comme des enfants, des petits-enfants. Quand on est enfant, on parle comme un enfant. Exemple, les bébés naissent dans les choux et sont transportés par les cigognes. Ça, c'est le langage des enfants. Mais vous le savez tous, je pense, que les enfants ne viennent pas comme ça, bien sûr. Donc, nous en sommes restés à une fausse image de Dieu. et une fausse image de Dieu détruit la foi. Est-ce que vous auriez confiance dans un Dieu, allez, en chocolat, en paille, en terre? Nous avons besoin dans notre monde scientifique, d'informatique, de raisonnement sérieux sur Dieu. Dieu mérite du sérieux. Dieu n'est pas ce que nous imaginons. Mais nous lisons mal la Bible. Nous lisons la Bible au passé. Alors nous finissons par dire en lisant la Bible, oui, oui, mais ça n'existe plus, c'est passé. C'est ce que j'ai dit au départ. Quand je me suis converti au Christ, j'ai commencé à dire, oui, mais c'est du passé. Les apôtres ne sont plus là, Jésus n'est plus là, c'est ce que je pensais. Ça n'existe plus. Alors ce passé nous semble toujours en dehors de nos réalités un peu vieillots. Nous qui courons vers les planètes. Enfin, bien sûr, on peut courir vers les planètes et mourir de chagrin parce qu'on a perdu un enfant. On a beau aller dans la haute technologie, mais perdre un enfant, la technologie ne nous console pas. Alors, il nous faut revoir notre image de Dieu. Qui est Dieu? Comment est Dieu? Que fait-il? Les enfants d'Israël, vous le savez, ont été esclaves en Égypte 400 ans. C'est beaucoup, 400 ans. À peu près de Louis XIV jusqu'à nous, à peu près. Voilà le temps de l'esclavage. Et pendant 400 ans, ils ont dû se transmettre des traditions, la langue hébraïque, ils ont dû se transmettre des petites histoires de famille, ils ont dû se transmettre une histoire de leur pays, de père en fils. Mais 400 ans, esclaves en train de faire des briques, et encore des briques, et toujours des briques. Ils auraient pu dire à la fin, mais Dieu, il est comment Dieu? Est-il le Dieu des briques? Est-il le Dieu du Nil? Le Dieu de la mort? Vous savez qu'on noyait les petits garçons. Est-il le Dieu du désert? Comme les Égyptiens. Nous finissons par avoir une image faussée de Dieu, même nous les chrétiens. Notre imagination travaille trop vite. Nous avons besoin d'écouter ce que Dieu dit pour savoir qui est Dieu. Et Moïse, cet homme esclave en Égypte, en montant sur le mont Sinaï, il a vu Dieu, il a entendu la voix de Dieu qui lui a dit « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu qui a promis une famille, une terre. » Un Dieu qui est au présent, je suis. D'ailleurs, quand Moïse lui a dit, comment tu t'appelles? Dieu lui a dit, je m'appelle, je suis. Je suis au présent, aujourd'hui. Je fais les choses aujourd'hui. Je suis capable de t'écouter aujourd'hui, comme j'ai fait avec ton père, de te parler, de te donner de la joie, de la paix, du bonheur, des forces, du tonus. Je suis capable de te secourir. Je suis le Dieu du présent. Chaque matin, ce Dieu-là est près de nous. Chaque matin, il nous réconforte. Chaque matin, il peut nous faire aussi des reproches. Pourquoi tu as dit ça à ton fils? Pourquoi tu as dit ça à ta sœur? Il nous porte. Et de savoir qui est ce Dieu, c'est déjà mieux le voir. Savoir qui est Dieu, c'est mieux le voir. C'est mieux lui faire confiance. Ce n'est pas un Dieu sans bras, un Dieu sans cœur, un Dieu caillou. C'est un Dieu qui est très aimant, très proche, très près de nous. Quand on a dit à Jean-Baptiste qui était dans sa prison, « Écoute Jean-Baptiste, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les aveugles voient. Jean-Baptiste, écoute, écoute. » Jean-Baptiste a eu confiance. Et j'ai confiance dans un Dieu qui se penche sur les humains. Un Dieu qui se penche sur les gens cassés, brisés. Ce Dieu-là, je veux le connaître. J'ai cherché, j'ai trouvé. Ce Dieu-là, c'est l'ami des hommes. Il n'est pas contre l'homme. Il ne tue pas l'homme. Il n'abandonne pas les femmes, les hommes, dans leur détresse. Je veux aller à sa rencontre. Voilà le Dieu dont j'ai besoin, qui correspond à toute mon attente. Voyez-vous, Dieu s'est transformé en homme et nous, nous l'avons déformé. Nous l'avons fait un peu comme nous, colérique, jaloux, menteur même. Parce que parfois, je dis aux gens, il a dit ça. Non, c'est pas vrai. Menteur, nous l'avons fait violent. Nous avons fait un Dieu à notre image. Il faut revenir à la source. Comment s'est montré Dieu au départ? Vous savez que nous pouvons boire l'eau de la Seine. Je connais la Seine parce que je pourrais parler de la Vilaine, mais je connais bien la Seine. On a vécu à côté. Je ne parle pas de boire l'eau de la Seine au Havre. Elle est pleine de fioul, de mazout, de pétrole, de déchets, de pourriture. Mais allez à la source, sur le plateau de Langres, là, vous avez la source de la Seine. Et là, la Seine, elle est buvable, elle est bonne, elle est propre. Eh bien, je crois qu'il faut aller aux origines. Il faut aller à la Bible pour boire la vérité. Par exemple, mes amis, vous prenez le livre de la Genèse, le premier livre, à la première page. Il est dit dans ce livre que Adam et Ève ont fait du dégât. Vous en faites peut-être aussi, en effet aussi. Ils n'ont pas respecté le chemin de Dieu, la parole de Dieu. Et voilà que le soir, Dieu est descendu pour leur parler. Il s'est promené sous les arbres du jardin. Et eux, ils se cachaient. C'était le soir, sous les arbres, c'était obscur. Et Dieu se promenait sous les arbres et il appelait « Où es-tu? Où es-tu ?» Il faut, mes amis, mettre cette histoire au présent. Dieu, comme l'ont fait trois femmes que je connais, qui ont traduit la Bible qu'on appelle « parole de vie », et elles ont mis la Bible au présent. C'est mieux quand on la lit. Il faut respecter les temps de la Bible, mais c'est bien de lire « Dieu se promène dans le jardin, Dieu me parle, Dieu m'appelle, Dieu m'aime aujourd'hui ». Mettre la Bible à « aujourd'hui ». Alors Dieu se promène à côté de moi. Dieu m'appelle quand je me cache, comme Adam. Dieu m'appelle quand je le fuis, quand je ne veux pas le voir, quand je ne veux pas l'entendre. Dieu est là et Dieu m'appelle et Dieu me cherche. Et ce Dieu-là me plaît. Ce n'est pas un Dieu qui m'exclut au nom d'un principe, un principe d'église, un principe même divin. C'est un Dieu qui m'accueille. Il m'appelle quand je déraille. Donc il ne me repousse pas. Adam, où es-tu? Il ne m'abandonne pas quand je suis dans l'obscurité de ma conscience, l'obscurité de la maladie chez moi, l'obscurité de ma solitude dans ma maison. Dieu ne m'abandonne pas. Il marche, il me parle au présent. Et il a mis, dans ce jardin où Adam se cachait, il a mis un arbre. Cet arbre, vous le connaissez. C'est un arbre qui protège. C'est un arbre qui nous défend. C'est un arbre qui est un refuge. Dans les craintes, dans les complexités de la vie, il y a un arbre qui nous protège dans le jardin. Il s'appelle l'arbre de la croix. La croix de Jésus. Où Jésus nous montre tout l'amour de Dieu. Toute la miséricorde, toute la réconciliation de Dieu. Je veux mettre la Bible au présent. Ce Dieu-là, mes amis, je l'ai cherché et je l'ai trouvé. Dans mes 18 ans et même avant, il est près de moi quand je suis dans l'obscurité. Et j'aime bien quand il me dit « Où es-tu ? » Ça veut dire, c'est pas Dieu qui se cache, c'est moi. Où es-tu ? Où tu te caches ? C'est pas Dieu qui me fuit, c'est moi. Où es-tu ? C'est pas Dieu qui s'enferme, c'est moi. Qui m'enferme chez moi. Où es-tu ? C'est pas Dieu qui se retire, c'est moi. Où es-tu ? Mettons au présent, revenons à la Bible. Bien sûr, nous pouvons toujours dire je ne veux pas de Dieu. Vous savez que le mot athée, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Les gens me disent, moi, monsieur, je suis athée. Alors je lui dis, monsieur, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Athée, ça veut dire sans Dieu. Ça veut dire tout simplement, monsieur, que vous voulez vivre sans lui. Mais lui, Dieu, ne veut pas vivre sans vous. Parce que Dieu s'est attaché à vous. Il s'attache, il se cramponne à vous. Comme la mère qui retient son fils, qui va partir à la guerre dans les tranchées. En août 1914, elle retient son fils. « Ne pars pas, mon fils, je ne te reverrai jamais. » Dieu s'attache à nous. Nous, on se dit « Je veux vivre sans Dieu. » Et Dieu dit « Moi, je veux vivre avec toi, avec l'homme. » Nous arrivons à l'image du potier. Dieu dit à Jérémie, descends dans la maison du potier, regarde, regarde. Et Jérémie regarde. Ce n'était pas sa profession à Jérémie. Il voit le potier qui tourne son argile avec, sur le tour, qui pétrit l'argile et qui fait un vase. Et voilà que le vase a un défaut. Ça arrive même chez vous, chez moi. Le vase a un défaut. Le vase est cassé, l'argile ne réussit pas. Alors le potier refait, sans se fatiguer, avec la même argile, il refait un vase. Il continue de tourner, de tourner. Allez voir le potier, mes amis. Cette histoire, je ne veux pas vous la raconter pour vous parler de potier, je ne connais pas la poterie. Mais allez voir le potier de la Gacilie, allez voir le potier de Dinan, il y a sûrement des potiers dans la région. Regardez le potier, mais ne le regardez pas seulement pour voir l'habileté de ses mains, dites surtout « Ainsi est le Seigneur pour moi ». Voilà comment Dieu est pour moi. Il me modèle sans cesse, il me reprend sans cesse, il me façonne sans cesse, il fait ça sans colère, avec patience. Il y a un défaut, mais il continue de me travailler, de me faire. Il y a un lien entre nos difficultés, nos misères, la vie sur terre et puis Dieu. Il y a un lien, il y a un rapport. Quand on est dans les difficultés, dans les chagrins, dans l'oubli des autres, Dieu, lui, pendant ce temps, il nous travaille, il nous façonne, il nous montre autre chose. Il refait le vase. L'apôtre Paul même, il imagine que l'argile parle. Et l'argile dirait au potier, « Pourquoi tu me fais comme ça ? Pourquoi tu me fais comme ça ? Tu n'existes pas. Potier, tu n'existes pas. C'est l'argile qui te parle, quand même. » L'apôtre Paul, il imagine tout ça. Et nous sommes l'argile, et parfois nous contestons avec Dieu, avec le potier. Mais Dieu continue de travailler. N'écoute pas ce que nous disons, n'écoute pas nos pensées futiles. Il nous façonne, il nous raccommode, il nous refait. J'avais une grand-mère je garde le souvenir d'une grand-mère magnifique, une femme d'une intelligence naturelle, paysanne, et je la revois toujours avec des chaussettes à la main. Ma grand-mère maternelle, elle raccommodait toujours des chaussettes. J'avais une grand-mère qui faisait des chaussettes et une grand-mère qui raccommodait les chaussettes. Pas beau ? Et ces chaussettes qu'elle me raccommodait, elles auraient pu me servir 40 ans. Parce que constamment, elle les refaisait. Petit trou, et ça repartait. Et les chaussettes duraient des années et des années. Aujourd'hui, moins de petites saletés, pouf, poubelle. À l'époque, on conservait les choses. Et Dieu aussi, devant tout ce qui se casse en nous, Dieu n'arrête pas de nous travailler pour faire de nous des hommes et des femmes à son image, à sa hauteur, à sa ressemblance. Le plus grand des miracles, je demandais à mon médecin une fois, « Docteur, comment expliquez-vous que l'être humain fasse tout cela avec ses organes ? Comment expliquez-vous, comment comprenez-vous la nature humaine ?» Il me dit, le plus grand miracle, c'est que ça tient quand même. Ça tient quand même. Je pense que le grand miracle que Dieu nous donne, c'est que la vie tient, parce que Dieu nous tient. La vie nous tiendra toujours. On vieillira, on mourra, on nous enterrera, on ressuscitera, on marchera dans le ciel avec le Christ. Si nous croyons en lui, si nous l'aimons, si nous acceptons le prix payé à la croix, et nous serons toujours avec lui, parce que la vie que Dieu donne, c'est une vie qui tient. Elle tient la route. Amen. Mes amis, dès nos premiers pas, vous ne vous en souvenez pas sûrement. Moi, je me souviens que d'un pas seulement, quand j'étais tout petit. Mais dès nos premiers pas, nous tombons. Pas vrai ? Alors nos parents n'ont pas dit « on n'y arrivera jamais ». On relève l'enfant et hop, il repart. Il retombe et ça relève et ça repart. Il y a toujours eu dans votre jeunesse, dans votre enfance plutôt, il y a toujours eu la main qui vous a relevé, qui vous a soigné. Et ces premiers pas, je pense qu'on les répète toute notre vie. Oui, je me souviens d'un pas, un jour, où je suis tombé. Je me souviens de courir et de tomber dans une chaudière qui était ras du sol dans la cuisine. On faisait tout dans la cuisine. On faisait le linge, on mangeait, on faisait la cuisine, on faisait tout. Je suis tombé dans la chaudière, brûlé. Alors la suite, je ne sais plus. Mais enfin, je suis là. Alléluia. Oui, mes amis, nous avons fait des chutes, nous sommes tombés et nous avons été relevés. Mais toute notre vie, une main nous a relevés. La main du potier. Toute notre vie, Dieu nous a relevés, Dieu nous a pardonnés, Dieu nous a aidés. Et le Dieu qui a fait les yeux nous a donné le miracle de voir ce qu'il fait pour nous. Dieu n'est pas un Dieu qui fait et qui se cache. Dieu est un Dieu qui fait et qui montre et qui nous ouvre les yeux sur lui. Je l'ai cherché. Et je l'ai trouvé. Amen. Dieu, je l'ai comparé à beaucoup de choses. Je l'ai même comparé, ne soyez pas choqués, je l'ai comparé au ventre de ma mère, qui me portait. Je ne voyais pas ma mère, je ne la connaissais pas. Elle me portait, elle me nourrissait d'amour. Je ne la connaissais pas. Sûrement que je la ressentais. Mais je ne connaissais pas, mais j'avais la foi du bébé. Vous connaissez la foi du bébé ? Une foi extraordinaire. Je devais faire confiance. Je ne m'en souviens plus très bien. Mais je ne me débattais pas, je ne criais pas. Je faisais confiance parce qu'elle me donnait la vie. Elle me donnait sa vie. Elle me nourrissait. Ainsi est Dieu. Ainsi est Dieu. Il nous donne sa vie, il nous donne son amour, il nous prépare quelque chose. Et il nous donne cette intuition, ce don magnifique, cette boussole, cette carte, ce chemin. Il nous donne la foi. La foi pour qu'on découvre le Dieu qui nous aime, qui nous attend, qui est derrière nous, qui est devant nous. La foi pour qu'on puisse toujours nous se diriger vers lui et ne jamais l'abandonner. Parce que lui, quand il était devant Ponce Pilate, quand il était devant Caïphe, quand il était devant le reniement de ses disciples, quand il était devant la foule qui hurlait, qui crachait sur lui, il aurait pu dire, si c'est comme ça l'humanité, je m'en vais. Il est resté. Je vous aime d'un amour éternel. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est le Seigneur Jésus. Alors, mes amis, j'aimerais que vous puissiez dire un jour, pourquoi pas aujourd'hui, j'ai cherché et j'ai trouvé. C'est une promesse de Jésus. Jésus a dit, cherchez et vous trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je ne joue pas à cache-cache. Je ne vous laisserai pas des années jusqu'à votre lit de mort dans l'inconnu. Je me montrerai à vous. Eh bien, nous allons le chercher ensemble. Vous voulez bien ? Nous allons incliner nos têtes, prier Dieu ensemble. Et j'ai confiance dans ce Dieu qui ne ment pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'a pas dit « cherchez-moi pour rien ». C'est écrit dans la Bible. « Cherchez-moi vainement, pour rien. Cherchez-moi et vous me trouverez. » On va prier ensemble, Seigneur. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Grâce aux paroles de l'Évangile, qui sont comme une lumière, qui étaient, qui sont, qui seront comme une lumière sur mon sentier. Je te prie afin que nous nous laissions saisir, car l'amour de Dieu a été montré avec éclat dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. Je te prie afin que nous nous laissions saisir, prendre par la main, pour traverser les torrents impétueux, pour traverser les années de souffrance, de solitude, d'incompréhension. Oui, tu es là, tu nous entoures par devant, par derrière, et ta main est sur nous. Et la parole n'est pas dans notre bouche que déjà tu la connais. Tu sais quand nous nous couchons attristés, tu sais quand nous nous levons découragés. Tu connais tout de nous. Tu nous aimes. Tu nous aimes. Tu nous appelles. Aide-nous à te trouver. Au nom de Jésus. Amen.